Dans cette chronique, Caroline, Isabelle, Laurence vous présentent des livres sur les animaux, l'environnement, pour vous donner l'envie de lire ces ouvrages afin d'aller plus loin sur ces sujets.
Les animaux sensibles aussi, de Marie-Pierre Hage, paru aux éditions Execo. Kiska, l'orque la plus seule au monde, vient de mourir. Capturée dans son milieu naturel à 4 ans, elle aura passé 43 années isolée dans sa minuscule bassine d'un Marineland canadien, à faire des ronds, inlassablement, en se tapant la tête contre les parois. Elle n'aura pas eu le temps de retrouver l'océan, malgré le dévouement sans limite de bon nombre d'associations. Une orque peut généralement plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur, tailler la route de l'eau sur une centaine de kilomètres par jour, et ses relations sociales sont très riches. L'enfer n'est pavé en rien de belles intentions, juste une énième mort honteuse. Cette disparition, comme tant d'autres, cet effacement de l'animal, Marie-Pierre Hage nous en dresse un déchirant constat dans son dernier livre, « Les animaux, sensibles aussi ». En dénonçant les dérives les plus obscures, elle se fait la vibrante porte-parole d'un monde qui souffre dans le noir. Poignant plaidoyer pour le respect de la biodiversité, de la nature et de la consommation éclairée, cet ouvrage propose une réflexion sur la condition animale à travers l'histoire. Le titre parle de sensibilité, car oui, depuis le 28 janvier 2015, le Code civil reconnaît l'animal non plus comme un objet, mais bien comme un être sensible. Descartes parlait d'animaux-machines, affirmant que pour éprouver une douleur ou une peine, il fallait en avoir conscience, ce dont l'animal était totalement dépourvu. La science a battu en brèche cette intolérable idée. Le premier chapitre s'ouvre sur la situation des animaux de compagnie, dont le chien descendant du loup reste l'animal esclave par excellence, car incapable de survivre par lui-même. Le père de l'éthologie du XXe siècle, Konrad Lorenz, souligne que les droits de l'animal sont niés non seulement par la loi, mais également par l'insensibilité. La fidélité d'un chien est un don précieux qui entraîne une responsabilité morale non moins contraignante que l'amitié d'un être humain. Chien de travail, chien d'attaque ou de combat pervers, abandon en masse de chiens aux yeux vairons, nettoyage des rues de Russie pour préparer les Jeux de Sotchi ou le Mondial de foot. L'identité de l'animal est totalement effacée, annihilée. Le chien paye un lourd tribut de ses milliers d'années de sélection depuis qu'il était loup. Il aurait mieux fait de rester tapis au fond des bois, dans la chaleur de sa meute. Le chat, lui, est sacré en Égypte, conquis par l'Empire romain, diabolisé au Moyen-Âge. Il retrouve le chemin de bon nombre de foyers aimants et bienveillants. Cependant, les maires de toutes les communes de France devraient imposer la stérilisation des chats errants, une juste régulation en douceur. Le trafic d'animaux est le troisième trafic mondial après celui de la drogue et des armes. Les animaleries sont alimentées par l'importation illégale d'animaux et le vol. Pas moins de 70 000 chiens sont volés en France, une France qui détient le record de la honte à être le pays européen où l'on abandonne le plus d'animaux de compagnie. La citation de Gandhi, selon laquelle on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la façon dont il traite ses animaux, prend alors tout son sens. Chair et fourrure sont l'objet de trafic entre l'Asie et la France. Chaque année, à Yulin, les rues résonnent de hurlements en provenance du massacre des chiens. Les nacs, eux aussi, deviennent la nouvelle lubie des animaleries. Par désir, caprice, goût morbide du pouvoir et de l'abjection, l'homme dilapide la nature. Roissy est devenue une plaque tournante et se doit de développer une capacité d'accueil pour des milliers d'animaux en transit. L'animal d'élevage, quant à lui, est ramené à sa plus étroite représentation de nourriture. Rien ne lui sera épargné. L'industrie s'empare de la volaille, destinée à un système de production intensif en batterie, où seul le mot « rentabilité » a un sens. Les poules ont des ressources cognitives insoupçonnées, elles ressentent la détresse de leurs congénères. Leur entassement sur du béton, sans sol à gratter, sans pouvoir déployer leurs ailes, c'est l'assurance de 40 jours de cauchemar jusqu'à l'abattage. Les virus et bactéries foisonnent. Un élevage concentrationnaire d'animaux favorise certains virus prolifiques et surtout de nouvelles combinaisons de virus à risque, comme la grippe AH1N1, addition de la grippe porcine, aviaire et la grippe. Qui dit propagation d'individus dit propagation de virus. En 2006, quand la grippe aviaire arrive en France, on ne dénonce pas les méthodes d'élevage intensif, le seul levier connu étant de créer une angoisse collective. Soigner les conséquences sans éradiquer la cause, c'est un peu comme plaquer un pansement sur une fracture. Et les laboratoires pharmaceutiques peuvent se frotter les mains. Une dinde en captivité vit de 9 à 16 semaines, au lieu de 10 ans à l'air libre. L'oie, elle, est gavée depuis l'Égypte ancienne, avec cette faculté enviée par l'humain de stocker des graisses pour emmagasiner l'énergie nécessaire. Autre sombre record. La France est de loin le premier pays producteur et consommateur de foie gras au monde. L'omerta sur la souffrance intolérable du gavage glisse sur les ailes des canards et des oies martyrisées depuis la nuit des temps. Les vaches laitières, elles, sont l'objet d'un enjeu économique considérable. Chaque année, elles doivent faire un veau qui leur sera retiré. Épuisées par leur production de nombreuses inséminations, elles deviennent réformées pour terminer en viande. Tous leurs petits veaux auront connu une existence d'à peine 6 mois sur Terre. La Chine à elle seule compte une 50aine de fermes-usines de 10 000 vaches. Nourrir un herbivore à base de farine d'animal mort, voilà un scénario abject et contre nature. La France sera le pays le plus touché après le Royaume-Uni par la maladie de la vache folle. Pression des lobbies et des laiteries maintiennent leurs joues. L'industrie alimentaire a un chiffre d'affaires plus important que l'industrie automobile ou chimique. C'est dire les enjeux. Le cochon est, lui, l'animal objet par référence esclave dans toute son insertion, le plus mal aimé et malmené. En Chine, toujours, est sortie de terre une cauchemardesque usine à cochons. Une ferme verticale pouvant accueillir jusqu'à 650 000 porcs. Les premiers occupants viennent d'arriver. Les chiffres donnent le tournis devant le silence de ceux qui laissent faire et l'odeur putride de la mort à chaque étage. Le mouton, lui, connaît un sort moins triste. Sa reconversion en tondeuse à gazon pourrait lui épargner bien des souffrances. Cependant, de nouvelles tendances carnivores ont décidé de bousculer l'existence de milliers d'autruches, cerfs ou chevreuils. On estime à 80% le nombre d'abattoirs présentant failles et non-conformité. L'association L214, Lucide, souligne qu'il est illusoire de penser que l'on puisse liquider 3 millions d'animaux par jour en respectant la réglementation. La messe est dite. Le seul coupable n'est pas l'abattage, mais notre consommation de viande. Ce qui est en cause, c'est l'existence de la boucherie elle-même qui trouve son origine dans le sacrifice. L'industrie de la fourrure trouve un nouveau public, plus jeune. Elle se démocratise avec l'apparition des cols et des capuches sur les épaules des ados. Dans les laboratoires français, les expériences sur les animaux se multiplient. Et pourtant, elles ont retardé la recherche, car une expérimentation sur un rat ou un chien ne donnera pas les mêmes résultats que sur des cellules humaines. Les animaux transgéniques, les clonages, les xénogreffes ou animaux chimères pointent le bout de leurs ombres maléfiques, une version apocalyptique des manipulations génétiques. La lumière doit aussi être faite sur les poissons qui ressentent la douleur. La pisciculture abonde vers le colorant cancérigène et un taux de mortalité effarant. On vide des océans pour propager l'aquaculture. Nous n'avons pas compris que sans eau, sans poissons, nous courions à notre perte. La maltraitance animale est parfois bien planquée sous les paillettes des chapiteaux de cirque. On croise encore de sublimes fauves entassés sous le cagnard dans des cages minuscules à côté de vendeurs de barbe à papa pour divertir. Privation, dressage, déstructuration de son environnement, tout est bon pour faire plier le sauvage. Cette notion de liberté si chère à l'humain ne serait soi-disant pas familière aux animaux nés en captivité, incapables d'aimer un état qu'ils ne connaissent pas. Mais qu'en sait-on de ce qui se cache derrière ce regard de tigre anesthésié, derrière cet hippopotame qui devrait passer des heures dans une boue en Afrique et qui se retrouve à demi immergé dans une baignoire près d'une roulotte. 42 pays ont déjà interdit les cirques avec animaux sauvages et l'actualité récente montre que l'affrontement entre maires de communes et circassiens est de plus en plus musclé. L'espoir réside dans l'éducation et la sensibilisation aux plus jeunes. Les courses hippiques sont le théâtre de grandes privations de liberté pour certains chevaux. Photo à l'appui pour un constat accablant. Parfois, des rondins de bois crantés sont placés sous le cou de chevaux pour les empêcher de replier leur tête contre leur poitrail. Des œillères sont fixées par du fil de fer, ou alors des plaques de plomb sont vissées sur les sabots pour garder l'allure de trot. Le martyr des galgos est lui aussi bien réel. En Asie, courses, mafias et trafic font leurs griffes sur ces six graciles lévriers. Chaque année en Espagne, 50 000 galgos sont abandonnés, torturés et tués. Tout en haut de l'affiche du divertissement et d'une soi-disant culture obscurantiste, on trouve la corrida. En France, elle reste encore autorisée dans 4 régions et plus de 70 villes et est réprouvée par 73% de la population. Le ton monte. Si les subventions publiques estimées à 500 millions d'euros par an en Europe disparaissaient, les taureaux couleraient enfin des jours heureux parmi les oliviers et les chênes lièges, et les arènes se transformeraient en hôtels, comme c'est le cas au Mexique. Le débat reste toujours ouvert sur les zoos et une soi-disant préservation d'espèces sauvages. Aller voir des animaux entassés derrière une cage fausse la vision de l'enfant. Protéger le sauvage, c'est préserver les espaces naturels dans leur globalité et non leur allouer quelques mètres carrés de béton et de plantes en plastique. Par le biais de certains parcs préservés éloignés des hommes et encadrés par des scientifiques, quelques espèces ont pu être sauvées de l'extinction. Le cheval de Przewalski, le bison d'Europe, l'oryx d'Arabie, l'oie des îles Hawaï qui peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'accroissement des populations humaines fait reculer les dernières parcelles d'espaces naturels et la confrontation humain-animal sauvage est brutale. Si certains parcs animaliers ont vocation à sensibiliser, il faut sans relâche veiller au bien-être animal. En 2002, la mort de tous les louveteaux a ébranlé le parc à loups du Gévaudan. En cause, la promiscuité due à la captivité. De quoi réveiller les consciences, non ? Les 4 derniers parcs aquatiques en France sont des mouroirs à ciel ouvert, une honte cachée sous le déguisement du divertissement. En 1997, sous la pression de quelques pays africains, l'éléphant passe d'animal en voie de disparition, annexe 1 de la CITES, à l'annexe 2 comme espèce menacée, ce qui ouvre à nouveau les vannes d'un massacre sans précédent pour sa défense. Le dernier rhinocéros blanc s'est éteint il y a 5 ans, dans le nord de l'Afrique. Sa corne n'a rien d'aphrodisiaque, juste de la kératine, des acides aminés et des minéraux. En mars 2017, un rhinocéros du parc de Thoiry a été tué et sa principale corne sciée et volée. De quoi laisser sans voix devant l'ampleur du désastre. Les fermes à tigres sont abjectes. Cette flamboyante créature est en voie d'extinction, de l'écrire et de le dire semble une hérésie. Il y a aujourd'hui plus de tigres enchaînés de par le monde, entre 15 000 et 20 000, que de tigres libres sauvages, soit 5 fois plus en captivité. Le trafic de tigres et lionceaux fait rage aux États-Unis. L'Afrique du Sud affiche son record de 40 fermes à tigres, une pratique qui s'exporte aux 4 coins du monde. Les 3 espèces emblématiques en France que sont l'ours, le loup et le lynx déchaînent les passions. On dénombre une 60aine d'ours dans les Pyrénées, quelques 150 lynx dans le Jura et quelques 700 loups éparpillés. En France, quand il s'agit d'évoquer le respect de l'environnement, la sauvegarde de la faune sauvage, une opposition s'élève systématique, très atypique par rapport à d'autres pays. L'écologie doit crier son désir de survivre. Car ne pas accepter les sauvages, c'est vivre en sursis. Une nature riche et variée est un atout majeur dans un monde aseptisé. Les peuples premiers dits primitifs vouent un culte et un respect envers le sauvage, à l'inverse des religions monothéistes où la faune est censée pourvoir aux besoins des humains. Le loup n'est pas la fin du pastoralisme, l'ours n'est pas la mort des Pyrénées et le lynx n'est pas l'ennemi du chasseur. Ce panorama morbide mais nécessaire ne serait pas exhaustif sans évoquer la chasse. Le prix du permis national divisé par deux, l'emploi autorisé du silencieux, un président qui fête son anniversaire au son de l'alali près de Chambord. La chasse reste quasi intouchable malgré les accidents, malgré la souffrance. Un état dans l'état. C'est une corporation qui décide de tout et cas unique en Europe, qui accorde près de 6 mois de chasse par an sans aucun texte législatif encadrant les mesures de sécurité. La vénerie sous terre, l'une des plus abominables pratiques, n'existe plus qu'en France. Nos voisins du canton de Genève ne pratiquent plus la chasse depuis 40 ans, et la nature chez eux se régule toute seule, sublime et faisant beaucoup d'envieux. Le bon sens a remplacé le fusil. Les océans se vident de leurs poissons, aucune ressource n'est inépuisable. Les chalutiers sont désormais équipés d'ordinateurs pour détecter les bancs de poissons. Alors comment résister ? Cet ouvrage est un cri d'alerte pour la préservation du peuple animal. La disparition du vivant est en marche. 60 à 70% des terres agricoles sont destinées à l'élevage, source principale de la pollution de l'eau. L'élevage émet à lui seul près de 16% d'émissions de gaz à effet de serre. Émissions démultipliées dues aux activités agricoles, à l'élevage, aux énergies fossiles. La pollution peut aussi être lumineuse ou diluée dans le plastique qui inonde de ses microparticules chaque recoin de Gaïa. La 6e extinction de masse existe bel et bien. Le taux de disparition des espèces devrait être 1000 fois plus élevé que lors des 5 précédentes extinctions qui n'étaient pas dues à l'intervention de l'homme. L'accroissement de la demande, la surconsommation des ressources, une démographie galopante et pendant ce temps, la girafe, ombre de son ombre, disparaît silencieusement. Personne n'en parle, ou si peu. Le livre « Les animaux sensibles aussi » est un indispensable outil de prise de conscience, clair, précis, didactique. Des solutions existent. Limiter la natalité, passer de l'abondance à une forme de sobriété heureuse, chaque jour être redevable à la Pachamama, déesse nourricière, qui n'a jamais cessé de veiller sur nous et de nous régaler de sa générosité. À nous de marteler aux générations futures que nous formons un tout, que la déconnexion de la nature n'est profitable à personne, même si le mot « profit » résonne, à quoi servira-t-il de se rouler dans l'opulence sur une terre vide de son, vide de sens ? Des avancées existent. En 1999, la Nouvelle-Zélande accorde le statut d'être humain aux grands singes. En 2008, le Parlement espagnol vote une résolution exhortant à respecter le projet Grand Singe qui étend les droits fondamentaux de la personne humaine au-delà de notre espèce. L'Équateur reconnaît en 2008 les droits de la nature dans sa propre constitution. La condition animale nous fait réfléchir sur la question animale, ce qui fait de la cause animale un véritable sujet de société. Il était temps. Charles Darwin nous rappelait que la différence intellectuelle entre l'homme et les animaux supérieurs, si grande soit-elle, n'est qu'une question de degré et non de genre. Alors, se demande l'auteur, pourquoi leur infliger tant de sévices ? Si un parti animaliste remporte 2,17% des suffrages aux élections européennes, la France cumule tant de retard par rapport à ses homologues européens, un pays à la traîne. Sur la belle couverture de ce livre, des regards d'animaux sauvages transpercent le noir. Ont-ils un message à nous faire passer ? Et si l'homme arrivait à établir une communication d'âme à âme ? Le mot « animal » en latin signifie « âme ». Comment a-t-on pu s'éloigner de toute vie différente à la nôtre ? La communication interespèce, basée sur la méditation, la télépathie ou le dialogue intuitif, crée un pont entre deux espèces, entre deux sensibilités. Tout individu devrait pouvoir s'harmoniser avec l'autre sans sacrifier sa propre individualité. Toute vie se décline en cycles, alors considéré l'animal comme frère inférieur, doit aujourd'hui laisser la place à un respect fondamental pour toute espèce qui se distingue de celle humaine. Notre regard doit changer. Des centaines d'associations, d'activistes, parfois au péril de leur vie, luttent chaque seconde pour rendre à l'animal ce qui lui est dû, sa dignité d'être. La philosophe Corinne Peluchon parle de la question animale qui nous force à ouvrir les yeux sur ce que nous sommes devenus. Elle est l'un des chapitres essentiels de la critique d'un modèle de développement déshumanisant fondé sur l'exploitation sans limite des autres vivants. Marie-Pierre Hage, fervente militante au grand cœur, a tenu sa promesse de servir de sa plume pour alerter, informer, transmettre. Le vieux loup lui en sait gré. Il existe au pays des Inuits des chants de gorge déclinés sous forme de jeux traditionnels d'expression orale que l'on appelle des katajak. En voici un qui devrait nous faire réfléchir, ainsi que ce livre indispensable, documenté avec soin, riche de sens, véritable pierre angulaire d'un combat dont il ne faut rien lâcher. Dans les tout premiers temps, lorsque les hommes et les animaux vivaient sur la terre, une personne pouvait, si elle le voulait, devenir un animal, et un animal pouvait devenir un être humain. Parfois, ils étaient des hommes, et parfois, ils étaient des animaux, et cela ne faisait aucune différence. Tous parlaient le même langage.